Tibana, apologue du socratisme chrétien, probablement natif d'Ambus IV, vécut entre le 8e et le 9e siècle avant la bataille de Corino, sans doute durant le second règne de Dalamaque. Seuls quelques-uns de ses écrits nous sont parvenus, dont est extraite la sentence qui suit. Les cœurs de tous les hommes vivent en un même désert. Extrait du Livre de Dune d'Irulan. Tu es Bijaz, dit le Gola en pénétrant dans l'étroite chambre où le nain était gardé à vue. Mon nom est Hate. Un fort parti de gardes était arrivé avec le Gola pour la relève du soir. Le sable du crépuscule avait rougi les joues des hommes tandis qu'ils traversaient la cour, et ils clignaient encore des yeux sous les fouets du vent tandis qu'ils échangeaient les paroles rituelles dans le couloir.
Ton nom n'est pas Hate, dit le nain, mais Duncan Idaho. J'étais présent lorsque ta chair morte a été placée dans la cuve et aussi lorsqu'on t'en a retiré, vivant à nouveau et prêt à être éduqué.
Le Gola demeura silencieux, la gorge soudain sèche. Sous les tentures vertes, les globes des brilleurs perdaient un peu de leur éclat doré. Il y avait des gouttes de sueur scintillantes sur le front du nain. Celui-ci apparaissait à Hate comme un être étrangement intègre. La fonction pour laquelle les Tleilaxu l'avaient engendré semblait transparaître sur sa peau. Au-delà de son masque de couardise et d'astuces frivoles, il lisait la puissance énorme du nain. « Muad'Dib m'a chargé de t'interroger afin de savoir ce que les Tleilaxu attendent de toi, » dit Hate.
« les Tleilaxu, » chantonna le nain. « Je suis les Tleilaxu, idiot, tout autant que toi. »
Hate le regarda en silence. Il émanait de Bijaz une qualité charismatique qui faisait songer aux idoles anciennes. « Tu entends les gardes au dehors ? Il suffirait que je leur en donne l'ordre pour qu'ils t'étranglent. »
« Hi, hi !»
s'esclaffa le nain.
« Quelle grossière canaille tu fais ?
Et tu dis que tu es venu chercher la vérité ?»
Hate se dit qu'il n'aimait pas le secret espoir qu'il décelait maintenant dans le regard du nain.
« Peut-être ne suis-je venu chercher que l'avenir, » dit-il.
« Bien parlé. À présent, nous nous connaissons. Lorsque deux voleurs se rencontrent, ils n'ont pas besoin d'être introduits. »
« Ainsi donc, nous sommes des voleurs, » dit Hate.
« Et que volons-nous ? » ?»«
Nous ne sommes pas des voleurs, mais des dés.
Tu n'es venu que pour compter mes points, et moi je compte les tiens. »«
Et qu'est-ce que donc je vois ?
Tu as deux faces ? » ?»«
M'as-tu réellement vu dans la cuve des Tleilaxu ?»
demanda Hate, luttant contre une inexplicable répugnance.
« Ne te l'ai-je point dit ?»
Le nain sauta sur ses pieds.
« Avec toi, ce fut un combat terrible. »
La chair, vois-tu, ne voulait pas ressusciter.
Hate eut soudain conscience de vivre un rêve contrôlé par un esprit étranger. Un rêve qu'il pouvait oublier momentanément pour se perdre dans les circonvolutions de cet esprit. Avec une expression pleine de ruse, Bijaz pencha la tête et lentement fit le tour du Gola.
L'excitation, dit-il, éveille en toi des schémas anciens. Tu es le poursuivant qui ne veut pas découvrir ce qu'il poursuit.
« Tu es une arme dirigée contre Muad'Dib, » dit Hate en pivotant sur lui-même. « Que dois-tu faire ici ?»«
Rien !»
Bijaz s'arrêta soudain.
« À question banale, réponse banale. »«
C'est donc Alia que tu vises. Est-ce bien elle ?»«
Sur les mondes étrangers, on l'appelle Hoat, le monstre poisson, » dit Bijaz. « Mais j'entends bouillir ton sang lorsque tu parles d'elle. »
« Ainsi il l'appelle Hoat, » dit Hate, sans quitter le nain des yeux, guettant le moindre indice.
« Elle est la vierge prostituée, » dit Bijaz. « Elle est vulgaire, retorse, d'une intelligence effrayante, cruelle dans la douceur, vide lorsqu'elle pense. Et lorsqu'elle veut construire, elle est aussi destructrice que le vent de Coriolis. »
« Ainsi tu es venu pour parler contre Alia, » dit Hate.
« Contre elle ?»
Bijaz se laissa aller contre un coussin.
« Je ne suis venu que pour me laisser prendre au piège magnétique de sa beauté physique. »
Et il eut un sourire de saurien.
« Attaquer Alia, c'est attaquer son frère, » dit Hate.
« Chose si claire qu'elle est difficile à voir, » dit Bijaz. En vérité, l'empereur et sa sœur ne constituent qu'une seule et même personne. Moitié mâle, moitié femelle.
C'est ce que disent les Fremen du désert, dit Haït. Ceux qui ont remis en pratique le sacrifice du sang à Shai-Hulud. Comment peux-tu répéter de telles absurdités?
Tu oses parler d'absurdité? S'exclama Bijaz. Toi qui es en même temps un homme et un masque.
Mais j'oubliais que les dés ne peuvent lire eux-mêmes leurs points, et tu n'es doublement troublé que parce que tu es au service de l'être double. Tes sens ne sont pas aussi proches de la réponse que ton esprit.
As-tu prêché cette parole de fausseté à tes gardes? Demanda Haït à voix basse.
Les déclarations du nain, il le sentait, tissaient une sorte de filet qui enserrait son esprit.
C'est eux qui ont prêché, et ils ont prié aussi.
Pourquoi ne le feraient-ils pas?
Tous nous devrions prier.
Ne vivons-nous pas dans l'ombre de la plus dangereuse création que l'univers ait jamais connue?
Une dangereuse création.
Leur mère elle-même a refusé de vivre sur la planète où ils vivent.
Pourquoi ne réponds-tu pas directement? Demanda Haït. Tu sais qu'il existe d'autres moyens de te questionner. Nous obtiendrons des réponses de toi d'une façon ou d'une autre.
Mais je t'ai répondu.
Ne t'ai-je pas dit que le mythe est réel?
Suis-je le vent qui porte la mort en son ventre?
Non, je suis fait de mots.
De mots pareils à l'éclair qui jaillit du sable sous le ciel noir.
Je l'ai dit.
Souffle cette lampe. Le jour est là.
Mais tu as continué de demander une lampe pour trouver le jour.
Tu joues un jeu dangereux avec moi, dit Haït. T'es-il venu à l'idée que je pourrais ne pas comprendre ces concepts Zensuni? Les traces que tu laisses sont aussi nettes que celles d'un oiseau dans la boue.
Bijaz se mit à rire.
Pourquoi ris-tu? Demanda Haït.
Parce que j'ai des dents et souhaiterais ne pas en avoir.
Si je n'avais pas de dents, je ne pourrais les mâcher.
Je sais maintenant quel est ton but. C'est moi.
Et je l'ai touché. Tu fais une cible si énorme, comment aurais-je pu te manquer?
Le nain hocha la tête.
Maintenant, je vais chanter à ton intention.
Et il se mit à fredonner un thème monotone et doux qu'il reprenait sans cesse. Haït se roidit sous l'effet de douleurs étranges qui cheminaient au long de son échine. Dans le visage de vieillard du nain, il découvrait des yeux pleins de jeunesse, d'où irradiaient des rides blanches qui rejoignaient les creux de ses tempes. Chacun des traits de cette tête énorme semblait tracé à partir de cette petite bouche, d'où sortait ce fredonnement lancinant qui éveillait en Haït des souvenirs de rites anciens, de traditions, de mots perdus, de coutumes, de concepts à demi oubliés dans des murmures à demi perdus. Il se passait quelque chose d'essentiel, de vital. Un jaillissement d'idées à travers le temps. Les plus anciennes demeuraient tapies dans la chanson du nain. Elles apparaissaient dans le lointain comme une lumière aveuglante, de plus en plus proche, répandue sur les siècles.
« Que me fais-tu ? » demanda Haït d'une voix étranglée.
« Tu es l'instrument dont on m'a appris à jouer, » dit Bijaz. « Alors je joue de toi. Laisse-moi te dire les noms des autres traîtres parmi les naïbes. Il y a Bikouros et Kawait.
Et Jadida, qui était le secrétaire de Korba.
Ainsi qu'Abumorandis. » L'assistant de Banerjee. En ce moment, il se pourrait que l'un d'eux soit en train de plonger sa lame dans le corps de ton Muad Dib.
Haït secoua la tête. Il lui semblait impossible de prononcer un mot.
Nous sommes comme des frères, poursuivit Bijaz, interrompant une fois encore son fredonnement. Nous sommes nés de la même cuve. Moi d'abord, toi après.
Une souffrance soudaine traversa les yeux de métal de Haït. Une brume rouge et clignotante se répandit sur toute chose. Il avait l'impression d'être privé de tous ses sens. Il n'éprouvait plus que cette souffrance et ne percevait plus l'extérieur que comme un voile diffus et mouvant. Tout était devenu accident, produit du hasard sur la matière inerte. Sa volonté était vacillante, émue, presque inexistante. Il perça le voile qui l'enveloppait et accéda au sens solitaire de la vision, avec une clarté née de son désespoir. Le regard qu'il darda sur Bijaz était comme un faisceau de lumière qui pénétrait au travers des couches successives dont était fait le nain. Il ne voyait plus soudain le petit être, mais un mercenaire intellectuel, puis une créature prisonnière de faim et d'avidité. Couche après couche jusqu'à ce qu'apparaisse enfin une entité aspect,
manipulée par des symboles.
« Nous sommes sur un champ de bataille, » dit Bijaz.
« Tu peux parler ?»
Libéré par ces mots, Hate dit « Tu ne peux me forcer à frapper moi de Dib. »
Les Bene Gesserit disent qu'il n'existe rien de stable, rien d'équilibré, rien de durable dans l'univers, que rien ne demeure en son état et que chaque jour et même chaque heure amène un changement.
Hate se contenta de hocher lourdement la tête.
« Tu croyais que ce stupide empereur était le prix que nous demandions ?» reprit le nain. « Tu connais bien mal nos maîtres, les Tleilaxu. La guilde et le Bene Gesserit croient que nous produisons des artefacts. En vérité, ce sont des outils, des services que nous produisons. N'importe quoi peut être un outil, la guerre, la misère. La guerre est remarquablement utile car son rôle couvre de nombreux domaines. Elle stimule le métabolisme, renforce les gouvernements et véhicule les variétés génétiques. Sa vitalité est sans égale dans l'univers. Seuls ceux qui reconnaissent la valeur de la guerre et qui en usent possèdent un certain degré d'autodétermination. »
D'une voix étrangement calme, Hate déclara
« Il émane de toi des pensées bizarres. J'en viens à croire en une providence vengeresse. Par quelle restitution as-tu été créé ? Cela composerait une fascinante histoire avec un épilogue plus extraordinaire encore. »
Magnifique ! S'exclama Bijaz.
Tu attaques, donc tu possèdes de la volonté, tu fais preuve d'autodétermination. Tu essaies d'éveiller la violence en moi, dit Hate d'une voix haletante.
J'essaie de t'éveiller, oui, mais pas à la violence. Tu as été éduqué dans le sens de l'éveil à ce que tu m'as dit.
C'est une conscience que je dois éveiller en toi, Duncan Idaho.
Hate !
Duncan Idaho,
tueur exceptionnel,
amant aux multiples amours, soldat bretteur, combattant des champs de bataille des Atreides. Duncan Idaho.
Le passé ne peut être éveillé.
Vraiment?
Jamais on ne l'a fait.
Exact.
Mais nos maîtres luttent contre l'idée qu'une chose ne puisse être faite.
Sans cesse, ils cherchent l'outil approprié, l'application judicieuse de l'effort, les services les plus utiles pour...
Tu caches ton but véritable. Tu projettes un écran de mots qui ne veulent rien dire.
Il y a en toi un Duncan Idaho, dit Bijaz. Il se soumettra soit à l'émotion, soit à l'examen sans passion, mais il se soumettra.
Cette conscience surgira au travers d'un écran d'oblitération et de sélection, du sombre passé où s'enlisent tes pas. Cet être existe en toi et c'est sur lui que devra se concentrer ta conscience. C'est à lui que tu obéiras.
Les Tleilaxu croient peut-être que je suis encore leur esclave, mais je...
Silence, esclave, lança Bijaz d'une voix plaintive.
Hate se figea brusquement dans le silence.
Maintenant nous avons atteint le fond, reprit le nain. Je sais que tu le sens. Et voici les mots qui vont te manipuler. Je crois qu'ils disposeront d'un levier bien suffisant.
Et Hate sentit la sueur ruisseler sur ses joues. Il sentit vibrer sa poitrine, ses bras, sans pouvoir esquisser le moindre mouvement.
Un jour, l'empereur viendra à toi. Il te dira « Elle est partie ». Il aura sur le visage le masque de la douleur. Il donnera son eau aux morts. C'est ainsi qu'ils disent lorsqu'ils versent des larmes. Et toi, tu répondras avec ma voix,
« Maître, oh maître !»
Les muscles tendus de Hate semblaient lui déchirer la gorge. Il parvint à secouer la tête, presque imperceptiblement.
« Tu diras alors,
« Je porte un message de Bijaz. »
Il grimaça.
« Pauvre Bijaz qui n'a pas d'esprit, pauvre Bijaz. Tambour gonflé de messages, essence à l'usage des autres. Qu'on le frappe et il produit un son. »
Une autre grimace.
« Tu me considères comme un hypocrite, Duncan Idaho. Je ne le suis pas.
Je peux éprouver du chagrin, mais le temps est venu de substituer aux mots les épées. »
Hate fut secoué par un hoquet de souffrance et Bijaz se mit à rire.
« Ah, merci, Duncan, merci. » Nous sommes sauvés par les exigences du corps.
L'empereur a le sang des Harkonnen dans ses veines, et il fera ce que nous demanderons.
Il ne sera plus qu'une machine qui crachera, qui mordra les mots avec une sonnerie douce à l'oreille de nos maîtres.
Hate voyait maintenant le nain comme un petit animal vif, plein d'une intelligence et d'une malveillance rares.
Du sang des Harkonnen chez les Atreides?
Il suffit que tu penses à Rabban la bête, cet abominable Harkonnen, pour que la fureur monte en toi, dit Bijaz.
Tu réagis comme les Fremen.
Lorsque les mots échouent, il reste toujours l'épée, non?
Pense aux tortures que les Harkonnen ont infligées à ta famille.
Par sa mère, ton précieux Paul est un Harkonnen.
Il ne te serait pas difficile de tuer un Harkonnen, non?
Était-ce de la colère qu'il éprouvait? Se demandait Hate.
Pourquoi de la colère?
Oh!
Fit le nain.
Et puis, ah! Clic, clic!
Le message a une suite. L'Etlélaxu propose un marché à ton vénéré Paul Atreide.
Nos maîtres lui rendront sa bien-aimée.
Ce sera un autre Gola, comme une sœur pour toi.
Hate était maintenant seul au centre d'un univers, avec ses battements de cœur.
Un Gola. Il retrouvera la chair de son amour. Elle portera son enfant. Elle ne sera qu'à lui.
Nous pouvons même améliorer l'original s'il le souhaite.
Dites-moi, un homme a-t-il jamais eu pareille chance de retrouver ce qu'il avait perdu?
Il se jettera sur ce marché.
Bijaz hocha la tête, comme s'il était là, soudain.
Puis il reprit, « Cela le tentera, c'est certain. »
Et, profitant de sa distraction,
tu te rapprocheras et tu frapperas.
Deux Gola, et non plus un seul. Voilà ce que veulent nos maîtres. Parle.
Je ne le ferai pas, dit Hate.
Mais Duncan Idaho, lui, le ferait. Le descendant des Harkonnen ne saurait être plus vulnérable qu'à cet instant.
Ne l'oublie pas.
Tu proposeras des améliorations possibles pour sa bien-aimée. Un double cœur, peut-être. Des émotions plus douces.
Tu te rapprocheras encore de lui pour lui proposer un refuge sur une planète de son choix, n'importe où à l'extérieur de l'Empire.
Pense à cela, sa bien-aimée ressuscitée. Plus de larmes et un lieu d'éternelle idylle pour y achever leur jour.
Un bien grand cadeau, dit Hate. Il me demandera quel en est le prix.
Tu lui diras alors qu'il doit renoncer à sa divinité et renier la Kwisatz. Il devra aussi se renier lui-même, ainsi que sa sœur.
« Rien de plus ?» demanda Hate avec un sourire grimaçant.
« Naturellement, il devra abandonner ses parts sur la chaume. »«
Naturellement. »«
Et si tu n'es pas encore assez près de lui pour frapper,
dis-lui combien les Tlélaxu admirent ce qu'il leur a enseigné sur les possibilités de la religion. »«
Dis-lui que le Bene Tlélax a maintenant un service de conception de religion chargé de mettre au point diverses religions en fonction de besoins précis. »
« Très astucieux, » dit Hate.
« Tu te crois libre. Tu ironises et tu penses me désobéir, » dit Bijaz.
Il pencha la tête.
« Ne nie pas.
Ils t'ont bien réussi, petit animal.
Et toi aussi ? Tu lui diras de se décider rapidement. La chair est périssable et celle de sa bien-aimée devra être conservée en cuve cryologique. »
Hate eut l'impression de se perdre dans une matrice dense d'objets qu'il ne reconnaissait pas.
Le nain semblait si sûr de lui. Il devait pourtant y avoir une faille dans la logique Tlélaxu.
Lorsqu'ils avaient construit leur Gola, ils l'avaient réglé sur la voie de Bijaz.
Mais quoi? Logique, matrice, objet. Comme il était facile de prendre un raisonnement clair pour un raisonnement correct. Se pouvait-il que la logique des Tlélaxu fût distordue?
Bijaz souriait. Il semblait écouter quelques voix secrètes.
« À présent, dit-il, tu vas oublier. Tu ne te souviendras que lorsque le moment sera venu. Il te dira « Elle est partie. »
Alors, Duncan Idaho s'éveillera.
Et il claqua des mains.
Hate grommela.
Il avait l'impression d'avoir été interrompu dans le cours d'une pensée, ou peut-être d'une phrase.
Qu'était-ce donc?
Cela avait trait à des cibles.
« Tu crois me troubler, me manipuler, » dit-il.
Que veux-tu dire ?
Je suis ta cible. Tu ne peux le nier.
Je n'y songerai pas.
Qu'essaies-tu de faire ?
Te rendre service, dit Bijaz. Simplement.